Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'internet et de gadgets. Nous sommes en avril 2021 et c'est l'épisode numéro 401. Et comme vous l'aurez constaté, je ne suis pas Patrick. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de sujets, des trucs bien lourds. Hein. On a toute la keynote Apple à traiter. On va parler aussi de l'App Tracking Transparency que Apple impose au monde. On parlera aussi de l'espace et de Thomas Pesquet. Et on aura plein d'autres sujets, hein, bien sûr. Et pour traiter de tous ces sujets, j'ai la meilleure équipe tech au monde. Hein. C'est reconnu par plein de labels. J'ai l'équipe du Mug que vous connaissez peut-être pas, mais pour les autres, vous connaissez bien. J'ai le plaisir d'accueillir Marion. Bonjour Marion, comment vas-tu ?
Très bien et ravie d'être de nouveau dans le rendez-vous tech et en compagnie de Jérôme et Guillaume.
Voilà. Bon, pas trop déstabilisé de ne pas avoir notre Patrick national. Hein. Je vais essayer.
Ah, il va nous revenir bientôt.
Oui, c'est pour la bonne cause. Hein. Je le rappelle, Patrick est en congé parental. Guillaume, comment vas-tu ?
Eh bien, très bien. Salut Marion, salut Jérôme. Chaud pour le rendez-vous tech. Let's go. On va parler de plein de choses très chouettes.
Il y a quand même un truc qu'on doit noter, c'est qu'on présente tous les trois la même émission, hein, le Mug, mais en fait, on ne la présente jamais ensemble. Donc, on profite, on pirate le rendez-vous tech pour faire enfin une émission ensemble, un espèce de débrief. Par exemple, la keynote, je l'ai présentée avec toi, Guillaume, mais Marion, elle l'a présentée le lendemain matin en solo. On n'a pas beaucoup échangé, finalement. Donc, c'est l'occasion. J'espère que Patrick nous pardonnera ce petit moment privé qu'on s'accorde dans son émission.
C'est l'occasion de se clasher, tout simplement. Hein,
exactement.
Que veut le peuple ?
On va attaquer tout de suite le gros morceau de cette semaine. C'était quoi ? C'était mardi dernier, je crois.
Tout à fait. Mardi soir dernier. Ouais.
Mardi soir dernier, la keynote Apple. Alors, on ne dit plus keynote hein, maintenant, on dit event. Les keynotes, ça fait complètement ringard. L'event d'avril, event qui s'est beaucoup fait désirer. Je vais aller très vite. Je vais récapituler les grosses annonces. Parce que le plus important, et ce que tout le monde attend, c'est plutôt qu'est-ce que vous, toi Marion, toi Guillaume, vous avez retenu de ces annonces, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous supputez de toutes ces annonces. Déjà le style de la présentation, on en reparlera, enfin je vais vous demander, mais en plein air, on avait limite Tim Cook en short, ambiance barbecue un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Pourquoi ils l'ont fait en plein air ? Pourquoi autant de verdure ? Alors, il y avait un message écolo, mais est-ce qu'il faut y voir autre chose ?
Je pense clairement que oui, la verdure, le fait d'être à l'extérieur, c'est un espèce de greenwashing. En tout cas, on peut potentiellement l'interpréter comme ça. Mais oui, il y avait une volonté de montrer que Apple aime la nature, que Apple veut se montrer sous le soleil. Je pense aussi qu'il y a la période du confinement qui joue beaucoup et que faire une keynote en étant 100% enfermé n'était pas forcément une jolie façon de communiquer. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Toi, Marion, qu'est-ce que ça t'a... Ça t'a fait de voir autant de verdure ?
Alors moi, j'ai pas du tout capté l'aspect greenwashing. C'est pas du tout ça qui m'est venu en tête. Mais juste quand je l'ai vu en extérieur, j'ai fait « Ah, ça fait du bien !»
Ouais.
Je passe mes journées à travailler en intérieur. Je sors pas. On fait plus du tout les balades, etc. Enfin, il y a quand même une bonne partie du monde qui est quand même encore confinée. Et donc du coup, ça a été surtout une bouffée d'air en fait de le voir en extérieur, présenté en extérieur. Ça m'a fait du bien et surtout ça a rompu avec les sempiternelles vidéo calls que tu fais toute la journée avec tes collègues, tous enfermés chez soi, etc. Ça marque une rupture et une bouffée d'air en fait.
Est-ce que Apple aurait des infos sur la fin du confinement, ou en tout cas, c'est le pronostic qu'ils ont l'air de faire. On va rapidement passer sur la partie service. L'Apple Card, il y avait des choses intéressantes, mais ça ne nous concerne pas trop, parce que les cartes de crédit, on n'a pas du tout les mêmes habitudes en France, et de toute façon, on n'a pas l'Apple Card pour l'instant. Peut-être un focus plus intéressant sur les podcasts, hein, puisque nous sommes dans un podcast. Une nouvelle app podcast avec des meilleures recommandations, des chaînes. En tout cas, Apple a décidé de reprendre un peu la main sur les podcasts. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression qu'il avait abandonné. Enfin, disons qu'il s'en occupait plus trop des podcasts.
Ouais,
c'est l'impression que ça donnait.
Ouais. Et puis complètement phagocyté par Spotify, hein, qui a complètement pris le taureau par les cornes, a commencé à faire des shows payants, enfin des podcasts payants, etc. Donc oui, clairement, Apple rattrape son retard et je pense qu'ils ont bien raison. Et c'est d'autant plus important qu'Apple est quand même connu pour sa gestion des podcasts depuis iTunes, hein, depuis même plus de 10 ans, qui est super efficace. Et je suis presque convaincu que la majorité des gens écoutent d'ailleurs le Rendez-vous Tech, alors pas plus depuis iTunes, mais depuis l'app podcast sur les iPhones, quoi. Il y a une grosse partie, j'en suis sûr.
Marion, petite question, ouais, Guillaume, tu parlais de Spotify qui met en place des podcasts payants. Ça veut dire qu'en plus de l'abonnement Spotify, tu dois payer pour t'abonner à des podcasts ?
Je suis allé un petit peu vite, pas payant, excuse-moi. Pas payant pour l'utilisateur, mais ils ont des podcasts exclusifs, c'est le mot que je voulais dire.
D'accord.
Exclusifs.
Oui, c'est ça que je trouve intéressant dans la différence de business model ici. C'est que du coup, Spotify, ils vont faire bénéficier de l'abonnement et en gros, ils enrichissent leur catalogue de contenu avec les podcasts. Et donc, les créateurs de podcasts vont pouvoir être rémunérés comme des créateurs de musique. Mais du coup, pour l'utilisateur, c'est finalement transparent parce qu'il n'a pas à passer à la caisse. Alors que du côté d'Apple, bah là, pour ces podcasts, ils font partie du programme spécial parce que ça ne sera pas le cas de tous les podcasts. Hein. Il faudra que les créateurs payent, je crois que c'était aux alentours de 19$ pour accéder à la fameuse plateforme où ils pourront monétiser ces shows-là derrière un abonnement spécifique. Bah, il y aura du coup des frais pour chaque abonnement de podcast que vous souhaitez. Donc du coup, ça veut dire que là, il y a une barrière un peu plus haute, en tout cas côté utilisateur.
Ce que tu dis, Marion, c'est que les créateurs de podcasts devront payer pour avoir accès un peu au back-office, ou j'ai mal compris ?
Oui. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, il y a toute une suite d'outils pour pouvoir gérer la monétisation de ton podcast. Et donc ça sera 19$ par an. À peu près, pour pouvoir accéder à ces outils. Puis tu auras également des outils d'analyse, hein, de performance de ton contenu, etc.
C'est quand même bien, Apple, ça, faire payer les créateurs de contenu pour qu'ils puissent se faire payer derrière. Alors, je pense que c'est pour limiter aussi, pour pas que n'importe qui, en gros, crée n'importe quel podcast sur la plateforme. Mais, je sais pas, philosophiquement, déjà, on leur crée le contenu.
Ils prennent une commission
et en plus il faut les payer.
Non, je trouve pas ça bête parce qu'en fait, si tu donnes accès à cet outil à tous les podcasteurs, et ben en fait tu auras la majorité. J'en sais rien, hein, c'est peut-être quelque chose qu'ils veulent prévenir, mais tu peux avoir potentiellement tous les podcasteurs qui vont se dire bon, ben on va le transformer en payant, et donc tu auras du contenu.
Oui, tout sera premium, quoi.
Ouais, voilà. Et donc, en fait, là, l'idée de mettre ça derrière un paywall, voilà, il faut quand même payer 19$ par an pour avoir accès à cette plateforme. Ça montre qu'il faut déjà être sérieux sur son activité de podcast et qu'on veut, du coup, c'est vraiment là, on veut vivre de ça, quoi. On veut avoir un revenu de ce podcast. Donc, c'est pas genre en dilettante, quoi.
Après, ça reste un petit peu dommage pour les petits podcasteurs qui, eux, effectivement, on perd aussi quand même un petit peu ce côté... Internet 1.0 du podcast où n'importe qui pouvait, avec un vieux micro au fond du tiroir et une bonne idée et un bon sujet, faire des podcasts. Donc,
mais tu seras plus dans les premiums. Oui, bah, on en parlera tout à l'heure.
Tu l'es déjà pas aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Il faut pas se dire on a perdu quelque chose qu'on n'avait déjà pas avant, en fait. Les créateurs ne pouvaient pas monétiser leur podcast à part s'ils avaient ils utilisaient Patreon ou Tipeee, etc. Ils pourront toujours le faire, et ceux qui veulent avoir une stratégie de monétisation plus poussée pourront y avoir accès en payant.
Ce que je pense que veut dire Guillaume, c'est qu'on perd les années babacool de la création de contenu, où on y allait la fleur au fusil. Maintenant, il va y avoir des vraies stratégies industrielles de médias. C'est la professionnalisation de ces médias avec les rémunérations.
Ce n'est pas forcément un regret, hein. C'est plus une constatation.
C'est une page qui se tourne.
Exactement, on le voit aussi sur n'importe quelle plateforme, sur YouTube, sur Patreon, sur tout ça. Effectivement, t'as quelque chose qui shift, mais en même temps, il y a aussi de plus en plus de monde, donc c'est normal qu'il y ait une espèce de tri. Et malheureusement, l'argent reste une façon un peu terrible, hein, on peut la voir comme ça, mais de trier aussi ceux qui sont qui ont le plus de moyens, tout simplement. Ouais.
En tout cas, nous, on n'a pas d'infos.
En fait, c'est vrai, c'est vraiment ça. Excuse-moi.
Non, j'essaye d'avancer parce qu'on va faire toute l'émission sur le podcast.
Mais j'insiste, c'est intéressant. Ce
oui, c'est... non, mais je sais, c'est intéressant, surtout qu'on est dans un podcast.
Bah oui, quand même. J'imagine que les...
Non, mais j'imagine Patrick avec son fouet qui est en train de m'écouter et de dire « Jérôme, avance, avance, avance
». Bon, mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais...
Pardon.
Donc voilà, donc écoute, enchaînons.
Oui. Non, bravo, Jérôme. Hein, bravo.
Bravo, mais bravo. En tout cas, nous, on n'a pas d'infos. Patrick ne m'a pas dit ce qu'il comptait faire, si le rendez-vous tech allait devenir premium ou pas. Et effectivement, comment les créateurs de contenu qui ont déjà des financements par Patreon et autres vont trouver le bon mix là-dedans, ça va être intéressant à suivre. On enchaîne. iPhone 12, nouvelle couleur. C'est incroyable. C'est violet. Une seconde de réaction sur cette couleur, Marion, violet, ça te plaît? On a perdu Marion.
Ah oui, on a, je crois qu'on a vraiment perdu.
Vous m'entendez pas là?
Ah oui, ça y est, on t'entendait pas.
On t'entend.
Ah, j'ai dit non merci hein, pour le violet.
Ah non merci pour le violet, tu n'aimes pas le violet, ok Guillaume? Ok, super, merci de vos réactions. Je pense que le violet va cartonner sur le marché asiatique, mais moi non, je n'aime pas trop le violet non plus.
Pas ma cam du tout.
Tout à fait. Ça, il est dispo déjà. On voit sur YouTube des tests du smartphone iPhone 12 violet. Donc on teste des couleurs quand même maintenant. Hein.
D'ailleurs, à chaque fois que je voyais les YouTubers sortir leurs vidéos, genre bah, MKBHD, test de l'iPhone 12 ou plutôt unboxing, je sais là, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire, mis à part, bah, il y a une nouvelle
c'est
couleur,
violet,
merci,
quoi.
Abonnez-vous. Quoi. C'est vrai.
Non, ne nous moquons pas, on aurait pu la faire si on en avait pris. Hein.
Oui, en vrai, je taquine gentiment, surtout que j'aime bien MKBHD.
AirTags. Alors, AirTags, on va expliquer... Mais on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent autour de AirTags. AirTags, en gros, c'est quoi? Ça va être des petits palets que vous pourrez mettre à votre porte-clés. Tile fait ça depuis pas mal d'années déjà aux États-Unis. Samsung s'est lancé sur le marché. Il y en a d'autres, mais un petit peu plus petits, donc on ne va pas en parler. En gros, les AirTags vont avoir... trois fonctionnements. Je réexplique parce que c'est parfois un petit peu confus l'explication des AirTags et Apple n'a pas été ultra clair. En fait, les AirTags vont embarquer techniquement plusieurs choses. D'abord, une puce ultra wideband. C'est ça ? Oui.
Non. Oui, tout à fait.
Ouais, ultra wideband.
Ouais.
Du Bluetooth à faible consommation, à faible énergie. Et également... un accéléromètre. Et ça, c'est le truc, par exemple, qu'on n'a pas dans les tiles, c'est l'accéléromètre. On n'a pas non plus l'ultra-wideband pour l'instant dans les tiles. On les a dans le modèle plus de Samsung. À quoi vont servir ces trois petits trucs? Et tout ça sera alimenté par une pile. En fait, ça va vous permettre de retrouver vos objets perdus. D'abord, avec l'ultra-wideband, à faible proximité, par exemple dans une pièce, ça va vous permettre de repérer au centimètre près où est l'objet. Donc c'est ce qui montrait un peu dans la présentation, les clés qui sont passées derrière les coussins du canapé, ça va vous permettre de les repérer très précisément. Le Bluetooth va vous permettre, dans une périphérie de Bluetooth, d'avoir une indication et de déclencher une indication sonore d'où est votre objet. Donc, dans une maison, vous allez pouvoir faire sonner votre clé, votre porte-clé à distance. Et ensuite, Il y a un système grâce au Bluetooth qui ne va pas être du GPS, mais qui va être du mesh, enfin du, comment on dit,
du maillage.
Du maillage, merci, en français. Du maillage Bluetooth grâce à tous les objets Apple qui, de manière anonyme, sécurisée, etc., quand ils vont passer à côté de votre porte-clé, imaginons vous l'avez perdu dans la rue, quand ils vont passer à proximité, vont vous permettre de le retrouver. Donc, ce n'est pas un GPS qui est embarqué dessus, qui aurait été beaucoup trop consommateur d'énergie. C'est un Bluetooth faible intensité et le Bluetooth de tout le monde qui va vous permettre de repérer votre objet. Moi, j'ai les Tiles depuis déjà 2-3 ans. Ils fonctionnent sur le même système. La grosse force d'Apple, c'est qu'il y a tellement d'iPhone, tellement d'objets Apple dans le monde que le maillage va être assez précis. Après, puisqu'on m'avait posé la question, si vous perdez vos clés en plein désert et qu'il n'y a personne qui passe, ça ne sera pas repéré. Ce n'est pas du GPS. Il faut bien comprendre ça.
Oui, tout à fait.
Ce qu'il y a à dire quand même dessus, et là, je vais vous demander un petit peu votre avis. En fait, se pose un gros problème pour Apple par rapport à ces petits AirTags. C'est que, puisque ça permet de traquer des objets, en quoi ça nous empêche de faire comme Spider-Man, de coller un AirTags dans la poche de quelqu'un que vous voulez espionner, dont vous voulez connaître les déplacements, et de pouvoir comme ça le suivre. Ce qui poserait un gros problème de vie privée. Apple a réfléchi à ça et a mis un système anti-tracking. En gros, le système se compose de deux choses. Si vous avez un iPhone et qu'on met un AirTag dans votre poche, votre iPhone, dès que vous vous mettez en mouvement, va vous informer que vous avez un AirTag qui ne vous appartient pas, qui est en train de vous suivre.
Tout à fait.
Ensuite, il y a un deuxième système, c'est que si au bout de 3 jours... Imaginons vous avez un Android ou pas voilà, vous n'avez pas d'iPhone, l'AirTag qui est dans votre poche, au bout de 3 jours, va se mettre à sonner. Donc, vous indiquant quand même au bout de 3 jours que vous avez une puce aux fesses, on va dire ça. Du coup, beaucoup de gens ont dit, mais c'est nul du coup les AirTags parce que ça n'a pas protégé du vol. Si le voleur, il a un iPhone ou... S'il n'a pas d'iPhone, le voleur va être averti au bout de 3 jours que l'objet qu'il a volé va être traqué. Du coup, on ne peut pas mettre non plus sur les animaux familiers parce qu'ils vont se mettre à sonner au bout de 3 jours. Du coup, ça nous pose énormément de questions. Et là, Apple n'a pas été très clair. Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié mes clés dans un bus où il y a 20 personnes qui ont des iPhones? Est-ce que tous les iPhones vont se mettre à sonner quand moi, je serai descendu parce que le bus se remet en mouvement? Tous les iPhones des gens vont indiquer qu'ils sont traqués. Comment ça va se passer? Est-ce qu'Apple a mis de l'intelligence artificielle pour empêcher ce genre de situation? On a plein de questions. Moi, ce que je veux vous demander, et je m'arrêterai là, est-ce que Apple a fait le bon choix de protéger notre vie privée sans nous protéger des voleurs ou il aurait fallu faire l'inverse? Marion, peut-être, est-ce que tu as un avis là-dessus?
Oui, j'ai un avis. Je dirais qu'en fait, Apple s'est intéressé au scénario le plus plausible et le plus courant, c'est qu'on a perdu bêtement, égaré bêtement chez soi, à proximité ou chez des amis, un objet, des clés. Enfin, le nombre de fois où ça nous arrive d'égarer des clés chez soi, d'oublier un badge quelque part, etc. Et c'est pas quelqu'un qui nous l'a volé. Enfin, la majorité des cas, en tout cas moi, c'est une intuition que j'ai, c'est une hypothèse que je forme, c'est un oubli étourdi où il a glissé quelque part, etc. Donc en fait, Apple essaye ici de se concentrer sur le cas le plus important, le plus dominant. Ils ont présenté l'AirTag pour vous aider à retrouver des choses perdues. Ils ne vous ont pas présenté l'AirTag pour vous aider à débusquer les criminels ou les voleurs.
Oui, donc, et ça empêche du coup de suivre un objet en mouvement en fait. C'est vraiment un objet immobile qu'on perd, quoi.
Ouais. Je voulais rajouter un petit truc par rapport aux 3 jours, parce que je m'étais un peu renseigné. En fait, alors, c'est pas 3 jours fixes. En fait, Apple n'a pas confirmé ce délai de 3 jours. Pour information, c'est pas un truc qui est hard-codé dans le AirTag, c'est-à-dire au bout de 72 heures, bam, ça se met à biper. C'est un réglage qui se fait côté serveur, c'est-à-dire que c'est Apple qui peut déterminer. On va dire en moyenne peut-être que c'est programmé pour 3 jours, mais il peut potentiellement, et je pense qu'ils ont peut-être été malins là-dessus, avoir, en fonction de la localisation supposée du AirTag, se dire bah, le AirTag, là, il a l'air d'être dans un avion. C'est peut-être pas le bon moment pour le faire sonner et on va peut-être attendre un jour de plus ou deux jours de plus pour, parce que ça, il faut y penser aussi pour pas faire paniquer les gens. Parce que imaginez qu'un AirTag se mette à biper dans un train ou dans un avion. Ouais. On est quand même dans une période, il y a des choses, enfin, le terrorisme et tout ça, c'est des choses qui font flipper énormément de gens. Déjà que la SNCF, il peut y avoir du retard de temps en temps. J'imagine pas le nombre de trains qui vont être arrêtés parce qu'il y a un truc qui se met à biper dans des affaires et que ça fait paniquer. Non, mais
t'as tout à fait raison.
T'imagines le message d'erreur de la SNCF? Alors, le train a été
arrêté parce qu'il y a un connard qui a oublié ses clés.
Ouais, non, mais en vrai... En vrai, je pense qu'Apple a dû y penser et je suis assez convaincu que c'est pour ça qu'ils ont fait du côté serveur. C'est-à-dire que c'est Apple, pour schématiser un peu, dans leur poste de pilotage de développeur, qui vont dire, bah, tiens, ce AirTag-là, on le fait sonner, ou celui-là, bah, peut-être que ce AirTag, il est dans un aéroport, c'est pas le bon endroit pour le faire sonner. Je pense qu'il y a moyen que, voilà, ils aient réfléchi à des choses comme ça. Et juste très rapidement, moi, sinon, pour mon avis un peu sur le produit, moi, j'aime bien le produit, j'ai hâte de le tester. Notamment le use case de, enfin le cas d'utilisation d'être dans le train avec ma valise, parce que c'est un gros flip pour moi qu'on me lâche chour et bah, j'ai hâte de voir ce qui se passe en priant pour que ça ne, que ça ne bip pas dans le train. Ouais. A priori, non.
Non, non, mais ça va être intéressant de faire des tests poussés. On précise quand même, parce que tu as parlé de serveur, Apple, qui protège la vie privée, a beaucoup insisté sur ce point-là. Apple ne peut pas traquer lui-même un objet et savoir où il est. Il n'y a que vous.
Non.
Tout est chiffré à plusieurs étapes. Personne ne peut, en hackant les choses, à moins qu'on vous vole votre smartphone, qu'on ait les codes, etc. Personne ne peut voir où est l'objet à part vous, hein, quand même. Ils ont été... Et ça, c'est intéressant. C'est que, tu vois, toutes ces questions qu'on se pose, est-ce qu'on peut s'en servir comme anti-vol vie privée? Personne ne s'est posé ces questions-là avec les Tiles, qui ont pourtant le même fonctionnement. Comme quoi, Apple, quand ils lancent ce type de produit, ont des problématiques que n'ont pas les autres fabricants. Mais moi, j'ai jamais vu un article disant est-ce qu'on peut espionner quelqu'un en lui collant un Tile dans la poche, quoi. Alors que on peut le faire parce qu'il y a pas du tout de protection contre le tracking pour un Tile.
Il y en a peut-être eu, mais en tout cas pas autant. Parce que là, on est inondé, hein, toutes les informations tech parlent que de ça. J'exagère à peine.
Mais c'est intéressant.
C'est une question d'échelle, hein. C'est tout simplement une question d'échelle. Un commerçant qui a, enfin, ou une marketplace qui a les pratiques d'Amazon, mais pas l'échelle, ne sera pas scruté ou critiqué de la même manière qu'Amazon. On le voit, hein, dès qu'ils sortent quelque chose ou disent quelque chose, ils se font flinguer directement.
Non, c'est clair.
Et du coup, Apple, c'est la même chose. C'est juste une question d'échelle. Quand tu as un impact tel sur les utilisateurs et le monde, comme à l'échelle d'Apple, évidemment, tous les yeux vont être tournés vers toi quand tu sors un nouveau produit.
Tout à fait.
Et le positionnement que tu prends du coup sur la vie privée, la publicité, etc., est d'autant plus important.
À noter quand même, parce que c'est intéressant ce qu'ils ont fait, on peut utiliser aussi les AirTags comme une étiquette, hein, un peu comme les étiquettes où on notait son numéro de téléphone en espérant que si on la perd à l'aéroport, la personne nous appelle. Là, on pourra le faire même avec un Android, c'est-à-dire qu'il y a une puce NFC, j'avais oublié de le préciser dessus, et donc quand vous approchez même un Android d'un AirTag, si c'est vous qui décidez ce que vous mettez comme info, hein, dedans, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, vous pouvez mettre un mail pour que la personne puisse vous joindre, vous pouvez mettre un message pour qu'on puisse vous contacter si quelqu'un retrouve votre AirTag et ce qu'il y a au bout. Donc, pas mal, moi je trouve intéressant, un peu plus discret qu'une étiquette où tu as mis toutes tes coordonnées visibles, quoi.
Bah, surtout que la technologie, on n'en a pas parlé, mais la technologie pour le prix et pour du Apple n'est pas trop déraisonnable, typiquement.
À part les porte-clés Hermès, mais...
Ouais, non, mais bon, ça, c'est les lanières et tout.
Mais...
mais c'est vrai que le prix de 30-35 euros environ, il y a même des packs, hein, à un peu plus d'une centaine, 110 euros, je crois, pour 4.
Non, pour 4, c'est 200 euros, hein, quand même.
Ah bon? Non,
180,
non, non.
C'est pas 199
Mais non, non, non.
Ah non, c'est... non, t'as raison.
Non, c'est 35 euros un AirTag, et le pack, c'est 110 ou 115 euros, je sais plus exactement. Mais en tout cas, pour du Apple... je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais c'est vrai que pour du Apple, c'est des prix qui sont... Moi, je m'attendais à 49 euros.
Alors, c'est 35 € pour 1 et 119 € pour 4.
Oui, 119.
Ça reste accessible. Je suis d'accord avec toi, hein, Guillaume. Je pense que pour le prix, voilà, c'est pas donné, mais c'est accessible, surtout si tu n'en prends qu'un. Ce qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la batterie.
J'ai dit, c'est une pile. C'est une pile de montre, a priori une autonomie d'un an si tu la fais sonner 4 fois par jour. Donc, vous avez de la réserve. Moi qui ai des tiles qui ont des piles de montre, honnêtement, ça fait 2 ans que je n'ai pas changé les piles et ils marchent encore.
Mais sachant qu'on peut changer les piles. Hein,
on peut changer, mais ça ne corrompt pas trop l'étanchéité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui marchera sous l'eau. De toute façon, le Bluetooth ne passe pas sous l'eau. Mais sous la pluie, même si c'est à l'extérieur de votre bagage, vous ne devriez pas avoir de problème.
Oui, c'est IP67.
Ça ne sera pas utile à tout le monde. Hein. Les gens qui ont l'habitude de faire attention à leurs affaires et qui perdent rien, honnêtement, c'est un objet complètement inutile pour vous. Pour les têtes en l'air, comme moi, c'est très utile. Je peux vous dire, je suis content, par exemple, d'avoir des tiles et ça marche plutôt pas mal. On avance, on a passé beaucoup de temps, mais c'est un des objets, puisque c'est un nouvel objet, les AirTags d'Apple, qui méritait qu'on y passe un petit peu de temps, ouais. Et on s'aperçoit qu'il y a des problématiques complexes pour un petit objet à 35 €. Quoi. Apple TV, on va aller très vite là-dessus. Ils ont mis un nouveau processeur. On pourra afficher encore plus d'images en HDR. Honnêtement, si vous aviez la version 4K, ce n'est pas la peine de changer. Nouvelle télécommande, la dernière, l'ancienne. Bon, il y a des polémiques, mais globalement, tout le monde détestait l'ancienne télécommande, avec son touch. Donc là, ils ont fait une nouvelle télécommande un peu plus maniable, on va dire. Peut-être le truc intéressant, c'est un système de calibration couleur avec son iPhone pour calibrer votre télé, qui n'est pas réservé d'ailleurs à la dernière Apple TV, puisqu'on peut le faire avec son iPhone. Dès aujourd'hui, vous pouvez calibrer votre télé. T'as testé, toi, Guillaume ?
Pas du tout, la méga flemme, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de notre Discord, du Discord NowTech, qui ont testé et qui ont dit que ça marchait. Je pense qu'il faut vraiment avoir un œil aguerri pour voir la différence, mais non, flemme, moi je suis très satisfait de ma télé, honnêtement. Mais non, même pas curieux, enfin vraiment, c'est pas un truc qui me titille plus que ça. Marion,
je suis curieuse, oui.
Toi, ouais. T'es curieuse de voir.
Là où ils sont bons, c'est dans l'expérience. C'est rendre quelque chose qui peut être aussi anecdotique qu'un réglage de téléviseur assez agréable à faire. Donc, du coup, Mais là, c'est peut-être le product designer qui parle. Hein. Du coup, je suis assez intéressée par tester l'expérience. Mais de la même manière pour le AirTag, pour moi, c'est les deux choses. La télécommande de l'Apple TV, le calibrage de l'écran et le AirTag, c'est les trois choses les plus intéressantes pour moi pour la keynote.
Ouais, non, mais ouais, l'ergonomie.
Et je t'annonce, Marion, que ce week-end, tu vas calibrer notre télévision puisque tu as envie de tester l'expérience utilisateur.
Bah, top. Allez.
Top. Allez, c'est parti. Les deux gros morceaux, là. Il y a deux gros morceaux qui arrivent. Hein,
il y aura plus de succès avec la calibration des couleurs qu'avec la calibration du surround.
Oh, il est très bien, notre surround.
Ça balance.
Oh, ça balance. Aïe, 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 aïe. Attention, attention.
Alors, vous votez 1 par SMS pour Marion, 2 pour Gérard.
Attention, si t'envoies des scuds, je t'envoie mes patriotes. Hein. Le boomer avec les références de la guerre du Golfe. On va parler de l'iMac. Nouveau design. On renoue avec les années 90. Les couleurs sur les ordinateurs, c'était le signe d'un nouveau printemps pour Apple. À l'époque. Vous étiez trop jeune pour le connaître. Moi, j'ai vu l'arrivée de ces Mac en entreprise. C'était une vraie révolution de voir des ordinateurs couleur. On est passé du beige. On n'est plus dans la même situation. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, cette arrivée de la couleur, à votre avis, sur le iMac? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils font ça? Marion, peut-être? Est-ce que tu as une petite idée?
Marion, ça fait référence, ouais. Oui, je pense que ça fait référence à la première génération d'iMac, les G3 qui restent iconiques, qui a marqué vraiment les esprits. Aussi, je pense que Apple est de plus en plus perçu comme une société un peu classique, un gros mastodonte, et donc de introduire des couleurs un peu fun dans l'univers des PC, ça les repositionne un petit peu comme la marque pour les créateurs avec du fun, etc. Ils ont peut-être un petit peu du mal avec cette image de grosse société qu'ils sont, hein, pourtant, et qu'ils essaient de renouer avec des couleurs un peu plus sympas. Voilà, je pense que c'est pour rendre peut-être les Mac plus mémorables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Oui, je suis assez d'accord. Je suis très honnêtement, je pense que Apple continue de vraiment bien communiquer pour les créateurs et pour les créatrices. De toute façon, il suffit de voir le nombre de vidéos sur YouTube de gens qui testent les Mac, les produits Apple et tout, pour s'en rendre compte. Donc à ce niveau-là, ouais, ils ont même gardé le menton. Beaucoup de gens ont critiqué ça. J'ai vu passer beaucoup de critiques sur Twitter. Moi, je pense que c'est très malin. D'avoir gardé ce menton qui est iconique. Quand tu regardes, ma chérie actuellement bosse sur un très vieux Mac, la pauvre, hein, 4 Go de RAM, 500 de disque dur.
Oh là là,
donc ça, ouais, ça lag bien, mais bon, ça a été fourni par son boulot, elle a pas trop le choix. Mais il y a le menton, tu vois. Alors il manque peut-être effectivement le logo de la pomme sur les nouveaux iMac, mais il n'empêche que c'est con, hein, mais c'est ce menton qui fait que c'est iconique, un peu comme l'encoche de l'iPhone X et plus. Donc je suis assez convaincu que marketingment parlant, c'est très malin. Après, effectivement, on aurait aimé un grand écran d'iPad 24 pouces, ultra clean et tout. Mais je pense que c'est important de garder une certaine différence visuelle de loin entre des produits.
Marion, toi, tu me disais un truc pas mal sur le menton de l'iMac.
C'est parce que moi j'utilise les post-it, donc c'est idéal pour coller tes post-it.
Et ouais, on pense pas à ça, mais c'est vrai.
On vous voit tous vos mots de passe collés sur des post-it.
Les mots de passe.
Pas les mots de passe, mais genre les raccourcis, parce que moi je suis un poisson rouge, les raccourcis logiciels, quand j'utilise pas, quand c'est pas le logiciel que j'utilise tous les jours, bah ça c'est super pratique, ou des choses que tu dois faire, voilà, des petites to-do list. Et en fait, le problème avec, je colle déjà des post-it sur mon écran, mais en fait, il faut que tomber parce qu'ils n'ont pas de support sur lequel se reposer. Donc pour moi, c'est idéal cet iMac avec le petit menton là.
Et alors, Marion, tu disais quelque chose de vachement intéressant sur les pourtours blancs quand tu l'as présenté dans le mug, que moi, je n'avais pas percuté. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Apple a mis des pourtours blancs et qu'ils n'ont pas laissé la couleur partout autour de l'écran, quoi?
Oui, alors ça, c'est pour les personnes qui travaillent avec de la couleur, en fait, c'est obligatoire. Donc, il faut soit avoir un pourtour neutre, soit gris, soit blanc, soit noir, mais absolument éviter un contact trop proche entre une couleur de l'écran, de l'objet en lui-même et la dalle qui va refléter l'image que vous regardez. Parce que sinon, ça va interagir avec, ça va altérer la perception de vos couleurs, en fait. Par exemple, si vous avez un écran qui est, un pourtour d'écran, un cadre qui est par exemple rouge, et que vous regardez un documentaire animalier avec de l'herbe verte, vous allez voir de la vibrance. Enfin, les deux couleurs vont vibrer ensemble à la frontière, en fait. Et ça va être particulièrement désagréable à l'œil. Donc, c'est une évidence pour les personnes qui travaillent avec la couleur, donc les photographes, les vidéastes, les designers, etc. Ça, c'est pas forcément évident pour les personnes qui ne travaillent pas à la couleur, mais vous le verrez quand même. C'est-à-dire que tout le monde sera impacté au niveau de leur perception des couleurs. Donc, vous aurez une sensation étrange que vous ne saurez peut-être pas qualifier exactement, mais ça va impacter négativement votre expérience sur l'écran. Donc, c'était évident qu'il fallait garder un pourtour neutre autour de la dalle de l'écran. Donc, comme je disais, en effet, après, le choix des couleurs, c'est soit noir, soit gris, soit blanc, quoi.
Ouais, quelque chose de neutre. Ça fausse la perception du point blanc, en fait. Donc, pour photographes, vidéastes et tout ça, on veut surtout pas un pourtour couleur autour de l'écran, quoi.
Ouais, c'est marrant parce que ça me rappelle, en fait, il y a plein d'illusions d'optique comme ça.
Ouais.
Où tu as l'impression que t'as deux carrés entourés de couleurs différentes. Et on te demande, est-ce que c'est la même couleur dans le carré? Et effectivement, comme l'un est borduré de couleur, d'une certaine couleur et l'autre d'une autre, tu as vraiment l'impression visuellement que les couleurs sont différentes. C'est marrant, tu vois, moi, pareil, Marion, je n'avais pas du tout pensé, mais maintenant que tu le dis,
D'ailleurs,
coup, tu vois, moi, je serais même allé plus loin, en fait. C'est que moi, en tant que designer, blanc, j'aurais préféré que la face avant soit neutre, en
soit
fait.
Soit en alu ou
coloré, et que sur les côtés ou le dos.
C'était le cas d'ailleurs des iconiques, des premiers iMac. Il n'y avait que le dos qui était en couleur. Hein. La face avant était blanche, non, je me trompe?
Non, en fait, ils avaient la même logique. Hein. C'est que sur la face avant, les couleurs étaient claires et la majorité à proximité de l'écran était gris. Etc. Mais tu avais quand même des boutons qui faisaient des rappels de couleurs.
Ah oui, il y avait des boutons de couleurs. Oui. Mais bon, OK.
Mais ils avaient quand même cette même logique du cadre neutre.
OK. On ne va pas trop rentrer dans les spécifications techniques parce qu'elles sont disponibles sur le site d'Apple, donc à portée de clic. Plutôt dire, effectivement, on a quelque chose d'ultra plat. Ça, c'est grâce au M1, hein, l'Apple Silicone. L'optimisation thermique, c'est un peu ce que Apple a appris avec ses iPads. Ils les ont mis dans leur Mac maintenant. Donc, ça va être des ordinateurs qui consomment très peu d'énergie et qui permettent des prouesses de design ultra fines, des ventilos très lents, voire pas de ventilos du tout, hein, dans certains designs du M1. Donc là, on peut quand même parler d'une petite révolution informatique, hein, qui est en train de prendre son envol avec ses Apple Silicon. Et on n'en est qu'au début. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le M1 n'est que l'entrée de gamme, en fait. Et ce iMac est présenté comme... C'est ça qui est stupéfiant. Il est ultra puissant, mais il est un peu présenté comme un iMac de bureautique. C'est-à-dire que Apple en garde beaucoup sous le coude quand ils sortiront le M1X ou le M2. A priori, le M2, ils sont en train de bosser dessus. Donc, vous, est-ce que vous pensez que c'est quand même... Toi, Guillaume, tu es en train de tester un M1 de manière professionnelle. Est-ce que tu penses quand même que ce nouveau iMac ira pour de la photo, du montage vidéo, ou c'est vraiment le futur iMac, on va dire, de bureautique améliorée?
J'ai regardé pas mal de vidéos qui essayent de faire du montage avec des fichiers vidéo 8K, RAW... donc des fichiers extrêmement lourds et par exemple sur Final Cut ça passouille, hein, ça passouille avec le M1. Donc il y a en fait, j'ai envie de te dire, pour répondre plus simplement, pour un vidéaste qui fait de la 4K dans des formats de fichiers pas trop exotiques, le M1 en fait est aujourd'hui adapté. Moi je pensais qu'il l'était pas, et là en testant depuis une semaine le M1 mini, en fait, je me rends compte que si. Je suis assez bluffé. En fait, je suis un peu comme tout le monde. Bah, je fais, putain, en fait, ça fait 4 mois que j'attends le truc et je suis déjà bluffé.
Le seul risque, c'est si tu l'achètes maintenant, vu qu'il est limité à 16 Go de RAM, même si c'est optimisé avec le M1, 16 Go de RAM, globalement, ça équivaut à du 32 sur un processeur Intel. Ouais, je le fais à la louche. Le seul problème, c'est que tu risques de regretter si Apple sort dans 6 mois, 1 an, les M2 qui seront a priori vraiment taillés pour les pros, tu risques de regretter un peu ton achat.
Je pense que oui, quelqu'un qui travaille dans des domaines vidéo, photo très poussés, avec énormément de Photoshop, avec des fichiers très volumineux, et donc des formats 6K, 8K en vidéo, oui, une personne qui achète le M1 maintenant risque de le regretter. Par contre, pour des besoins comme le nôtre, je pense, en tout cas sur Nowtech, sur la production vidéo qu'on fait, le M1 est adapté. Mais attention, je dis bien adapté. Il n'est pas exceptionnel. Genre, il est bien. Le rapport qualité-prix, je le trouve très bon. Mais effectivement, si un jour on travaille avec des fichiers vidéo, et ça peut arriver, parce qu'on le sait, Jérôme, des fois on upgrade des caméras, pour peu qu'on travaille avec une marque exceptionnelle, qui est SOS Ciné, bien sûr. Non, mais que tu vois qu'on ait des fichiers de caméras cinéma, des trucs comme ça, sur le M1, on va un peu être essoufflé.
On va peut-être ramer un petit peu, ouais.
Exactement.
Après, l'iMac, ils ne l'ont pas positionné pour un univers professionnel de niche.
Complètement.
C'est-à-dire les producteurs de vidéos, très lourdes, quoi.
Le prix...
Il va être compatible pour d'autres créateurs et d'autres professionnels. Et la majorité.
Le prix est une bonne indication. Alors, je les ai encore en dollars. Je n'ai pas remis à jour mes notes, mais...
C'était 1450, si je ne dis pas de bêtises, pour le moins cher.
Pour le moins cher, oui. C'est dans ces eaux-là. Et après, si tu mets 16 gigas, c'est du prix Apple. Hein, ça reste cher quand même. Mais on sent que c'est quand même un prix relativement accessible pour une entreprise qui voudrait équiper tous ses bureaux d'iMac. On n'est pas dans des prix... même dans les options disponibles, on ne peut pas se faire un Mac Pro à 40 000 euros comme on l'a vu dans d'autres générations de Mac. Donc, ce n'est pas un positionnement pro. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser en pro de la photo ou en pro du Mac, mais ce n'est pas le positionnement. Marion, est-ce que
J'ai les prix, justement.
Oui. Donc,
premier prix, c'est ce que vous disiez, 1449 euros. Et ça va jusqu'à ensuite 1899 euros. Pour celui à 512 Go de stockage, 8 Go de mémoire, etc.
Ça, c'est un signe d'ailleurs. Le fait qu'on ne puisse pas mettre un téra dedans montre bien que Apple ne le positionne pas pour des gros vidéastes ou des gros photographes.
Ou le fait aussi que sur le site d'Apple, tu n'es pas 16 gigas de mémoire proposée dans les configurations par défaut.
Ouais.
Alors que si je ne dis pas de bêtises, mais les Mac professionnels, tu auras toujours plus de mémoire vive proposée. Après, pareil, très rapidement, attention, hein, j'ai aussi regardé encore une fois beaucoup de retours. 8 gigas de RAM quand tu fais du montage vidéo ou quand même tu as 2-3 applications en même temps. 8 gigas de RAM, c'est un peu chaud et les gens avaient des problèmes hein, en montage vidéo et tout ça. 16 gigas de RAM reste le choix et j'ai envie de vous dire reste le choix qui a le meilleur amortissement parce que ça se revendra toujours mieux appareil qui a 16 gigaoctets de RAM.
Ouais.
Mais en tout cas, on est à l'aube d'une nouvelle ère dans l'informatique et je suis très content de tester tout ça en ce moment, clairement.
Marion, toi qui es sensible justement aux petits détails, tu me parlais justement de leur connecteur qui est assez malin avec la prise Ethernet. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis sur le nouvel iMac et ce que tu en penses?
Oui, c'est le genre de petit détail que j'adore. Justement, pour éviter d'avoir des câbles qui se baladent un peu partout sur votre bureau, ils ont été assez malins pour planquer la prise Ethernet sur le module de chargement. Je ne sais plus comment on l'appelle.
Sur le bloc d'alimentation.
Le bloc d'alimentation. Merci, Guillaume. Donc directement sur le bloc d'alimentation, donc à proximité de la prise. Et donc ça permet tout simplement de garder le câble Ethernet hors de vue et aligné du coup à hauteur de la prise et de dégager votre espace de travail, tout simplement. Parce que évidemment, l'iMac, vous n'allez pas le trimballer avec vous à travers le logement. Ce n'est pas un Mac portable. Et donc du coup, ça fait complètement sens.
Après, les esprits chagrins vont peut-être dire « Ouais, Apple a encore réussi à faire un câble propriétaire. »
C'est un peu ce que j'allais dire.
Vas-y, l'esprit chagrin. Ouais.
Non, mais je suis l'esprit chagrin. mais je reconnais qu'Apple nous a un peu gâtés sur le fait de mettre de l'USB-C partout, qu'on puisse charger les Mac de 13 pouces, 16 pouces en USB-C depuis un petit moment. Et là, j'avoue qu'avoir à nouveau une connectique propriétaire, alors je trouve ça très malin, je suis d'accord avec toi, hein, Marion, l'Ethernet dans le bloc. J'avoue que j'aurais bien aimé une petite prise USB-C dédiée au chargement, comme ça ton chargeur de... On le sait que le Mac M1 ne consomme pas beaucoup, donc que tu puisses brancher ton chargeur de Mac pour alimenter ton iMac. Alors bon, c'est pas l'usage qu'on verrait parce que c'est des ordinateurs de bureau, mais on perd un peu cet universalisme.
On perd un côté que Apple avait dans ses ordinateurs des années 90, qui était la poignée pour le transporter. C'est-à-dire un transportable. Le iMac n'est pas un transportable. C'est vraiment fait pour rester collé à ton bureau, quoi.
Mais bon, un peu chagriné de ça, effectivement. J'aurais aimé de l'USB-C partout, parce que c'est la connectique du futur, un peu des deux.
Un ordinateur où tu vas passer 3 heures à choisir ta couleur que tu ne reverras plus jamais, puisqu'elle fera face au mur. Les précommandes, c'est le 30, et ça sera livré mi-mai. Donc, suivez tous les meilleurs YouTubeurs tech pour avoir des tests de ce produit. Si ça vous intéresse, on passe à l'autre gros morceau. Déjà, quand même, la petite séquence hollywoodienne, Mission Impossible, avec un voleur qui s'infiltre chez Apple, découpe les précieuses vitres à $1 million qui recouvre l'Infinity Loop, avec une révélation qu'en fait, c'est Tim Cook qui a volé le processeur M1 dans les Mac pour le mettre où ? Eh bien, dans l'iPad Pro. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite séquence ? Est-ce que c'était drôle, ridicule ?
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Moi, je l'ai trouvé ridicule. J'ai adoré le spot sur le AirTag avec le voyage dans le canapé, les confins du canapé, avec les cacahuètes, les pièces de centimes, le chat qui se balade, etc. Mais alors, franchement, Tim Cook, là, puis alors l'acteur, le pire acteur que tu peux avoir, quoi. Non, franchement, je n'ai pas compris l'intérêt, mais bon, pourquoi pas.
Guillaume.
Aïe, 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 pas convaincu. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Effectivement, bon, Tim Cook n'est pas,
n'a
pas
le pas sourire. Il n'aura pas un Oscar, non, c'est clair.
Non, mais il n'a pas le sourire le plus crédible du GAFAM Game.
Il est même un peu creepy, quand même, son sourire.
Il avait un petit côté... Creepy, c'est ça.
Il avait un petit côté Uncanny Valley, Mark Zuckerberg.
Oui, exactement.
C'est affreux. Voilà. C'est affreux.
Non, mais ce sont des vrais humains quand même. Hein. C'est pas des. C'est
oui, quand même. Ouais, mais on peut avoir des doutes. L'iPad Pro, encore plus pro que pro que pro. J'ai l'impression que chaque année, il devient de plus en plus pro. Là, pour le coup, ils nous ont fait un petit tour de passe-passe. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Il n'y a pas si longtemps, ils nous disaient oui, alors on a pris les processeurs des iPads et des iPhones pour faire des Macs. Et maintenant, ils nous la font à l'envers. On a pris le processeur du Mac pour le mettre dans l'iPad. On va dire que la boucle est bouclée, une grande homogénéité des processeurs chez Apple. On aura du M1, comme dans les ordinateurs. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est celle qu'on s'est posée tout de suite. Apple met un processeur M1 dans ses iPads. Est-ce qu'on va avoir macOS sur l'iPad? Est-ce que c'est souhaitable?
Ce débat me gave un peu, honnêtement, parce que je crois qu'on l'a de plus en plus partout. C'était Micode aussi, sur Twitter, on lui fait des gros bisous, mais qui avait relancé tout ce débat-là en disant mais pourquoi on n'a pas macOS dans l'iPad? Mais mettez-moi macOS, ça serait exceptionnel. Moi, je te rejoins pas mal, Jérôme, sur le fait que ce sont des appareils différents, l'iPad et le Mac. Le simple fait qu'il y ait le Pencil sur l'un change beaucoup, beaucoup de choses, ou le tactile, l'un et l'autre. Donc, ouais, pour moi, c'est des appareils qui sont très différents. Ils peuvent être complémentaires, ils peuvent ne pas l'être. Typiquement, un développeur, une développeuse n'a pas besoin d'un iPad, je pense. Mais par contre, un créatif, une créative peut clairement n'utiliser qu'un iPad pour, par exemple, ouais, je sais pas, une personne qui travaille sur Fiverr, qui fait du dessin, va avoir évidemment une tablette professionnelle graphique et tout, mais peut se servir d'un iPad comme petite machine de croquis. Enfin, il y a plein de petits usages comme ça qui peuvent être super intéressants et qui peuvent complètement suffire. Par contre, effectivement, d'autres métiers... moi, je suis développeur, tu me donnes un iPad, je te rigole au nez, je fais remballe, quoi. Vraiment, pas du tout adapté. Donc, je trouve ça très bien qu'il y ait encore cette différenciation. Et puis, d'autant plus, si Apple peut te vendre deux produits au lieu d'un, ils ont tout intérêt à le faire, économiquement parlant.
Oui, clairement. Après, moi, c'est ce que je disais. En même temps, on a vu que Microsoft, avec sa Surface, ils te vendent deux produits en un, mais en additionnant les deux prix. Hein. Ils ne font pas une réduc.
Clairement, et juste pour très rapidement rebondir, et après, Marion, je veux bien entendre ton avis là-dessus. Tu vois, Micode a tweeté « La monstrueuse puce M1 et 16 gigaoctets de mémoire vive pour en faire absolument rien ». Et c'est là où tu vois que comme Micode a ce côté beaucoup plus développeur, c'est ce que je viens de te dire à l'instant, c'est que t'es développeur, t'as envie de rironner, tu vois, t'as envie de rironner du M1 en disant merde, c'est nul quoi, foutez macOS dessus. Alors, mais moi qui ai peu les deux côtés, j'ai les pieds des deux côtés, je suis un peu entre les deux quoi.
Alors, je sais, toi, Guillaume, quand même, tu l'utilises de plus en plus professionnellement ton iPad Pro. Moi, j'utilise un iPad Pro pour 80% maintenant de mon boulot. Hein. Je le dis vraiment, je l'utilise toute la journée et c'est vraiment mon outil de travail principal. Donc, bien sûr, je suis hypé. Marion, toi, par contre, tu n'as pas trop intégré l'iPad dans ton workflow. C'est plutôt un outil de divertissement. Donc, l'iPad Pro, toujours pas pour toi.
Non, pas. Non, ça ne m'intéresse pas du tout.
Voilà.
Voilà, non,
mais après là, je vais répondre à Guillaume. Je pense que encore une fois, on garde cette petite guéguerre mobile, PC, enfin mobile et ordinateur. Et c'est vrai qu'on se disait non, mais de toute façon, le mobile, c'est pour du divertissement, c'est pas pour des choses sérieuses ou des choses complexes, etc. Mais en fait, encore une fois, on se traîne un bagage juste d'historique de développement en fait de l'objet. En effet, quand le mobile est sorti, il y avait peu de possibilités, il y avait peu de puissance, il y avait peu d'applications, on pouvait faire peu de choses avec. Sauf qu'en fait, c'est plus le cas en 2021. En 2021, la plateforme mobile et ordinateur sont de moins en moins séparées en termes de performance, de possibilités d'usage, etc. Donc en fait, de pouvoir, encore une fois, avoir une cohérence de performance entre les ordinateurs et l'iPad ou les appareils mobiles, ça fait... C'est, pour moi, ça ne m'étonne pas. Tu vois, avec Guillaume, on parlait de quand est-ce qu'il faut harmoniser, quand est-ce qu'il ne faut pas harmoniser avec les câbles, etc. etc. Ben là, typiquement, je pense que d'avoir la même puce M1 dans les iPads et les ordinateurs, c'est logique. Pourquoi pas dans les smartphones, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être qu'ils vont nous l'annoncer en septembre ou cet été. Mais ça fait sens. Par contre, ça reste des usages différents. Donc, c'est encore une fois ne pas comprendre la différence entre égaliser des performances parce qu'on peut avoir un éventail de possibilités équivalents. Mais par contre, l'expérience au touch ou à la souris est complètement différente. Et donc, les interfaces pensées sont différentes. Et donc, macOS sur l'iPad, non.
Non, bah, je suis assez d'accord.
Oui, complètement.
Il y a deux, trois peut-être moments dans un mois où je me dis, merde, là, je suis obligé d'aller faire ça sur mon Mac parce que je serai plus rapide. Mais ça arrive de moins en moins. Moi, je pense que finalement, on tombe sur un débat vieux comme l'informatique. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Et aujourd'hui, les tablettes, on ne va pas parler que de l'iPad, mais les tablettes sont juste un autre outil informatique. Et de vouloir avoir un tournevis qui fait marteau, ça peut être une idée. Hein, les couteaux suisses existent pour ça. C'est bien d'avoir un objet qui fait tout. Mais c'est bien aussi d'avoir des objets dédiés. Et moi, je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent debout ou en forte mobilité et qui font beaucoup de notes manuelles et de schémas. Un iPad est un outil informatique beaucoup plus adapté qu'un ordinateur pour faire son boulot. Moi, je le constate tous les jours. Moi qui fais beaucoup de croquis, l'iPad m'a ouvert énormément de possibilités et m'a permis des gains de productivité énormes par rapport à un ordinateur, quoi. Donc,
deux exemples qu'on a eu récemment, c'est par exemple faire le plan de ton appartement sur l'iPad. Bah, tu te balades dans les pièces, tu mesures et tu notes sur ton iPad au fur et à mesure avec des applications adaptées. Ou sinon, faire l'état des lieux avec un iPad où tu te balades dans les pièces. Bon, il faut juste que le logiciel fonctionne sur l'iPad, mais bon, ça, c'est une
question. Non, mais c'est tout con, mais ça permet de signer les photos en direct pendant l'état des lieux, enfin des trucs qui sont pas possibles avec un ordinateur, quoi.
Ouais, moi je trouve que l'iPad il est fort en déplacement. Là où un Mac garde ce côté ancienne ergonomie d'ordinateur, l'iPad a vraiment ce côté tu peux le détacher du clavier, petit clin d'œil Jérôme, bien sûr. Non mais tu peux le détacher, tu peux sortir le pencil. Et puis moi j'aime vraiment l'idée de l'iPad, c'est un endroit où tu vas te focus sur une tâche. Je suis quelqu'un, on est un peu pareil, Jérôme, là-dessus, on est très multitâche, et ça peut même nous nuire un peu d'être comme ça. L'iPad me force, par exemple, je suis sur un MindNode à écrire une vidéo, me force à rester sur le MindNode parce que je n'ai pas 40 fenêtres ouvertes à côté, parce que je n'ai pas 50 trucs à swiper, un flux Twitter que je vais scroller un peu machinalement parce que le sucre des réseaux sociaux... Enfin, voilà, j'aime beaucoup aussi cette ergonomie-là, de dire c'est un écran, c'est un focus, je fais un truc et j'évite de faire du multitâche, du multiscreen.
Ouais, non, mais
j'aime beaucoup ça.
C'est vrai que c'est un objet qui est quand même hyper agile et moi, en tout cas, qui m'a pas mal changé ma vie. À essayer. C'est à peu près tout hein, ce qu'il y avait comme annonce. Là, on n'a pas parlé des performances de cet iPad Pro. Il est mieux que l'année dernière. Il a un écran avec du mini LED, qui est une nouvelle technologie d'affichage, qui va peut-être permettre une meilleure luminosité en plein soleil, ce qui peut intéresser un photographe itinérant, on va dire, qui fait sa retouche sur le bord d'une table de camping. Après, je peux déjà vous livrer notre vidéo. Faut-il prendre le nouvel iPad Pro ? Non. Si vous avez déjà un iPad Pro de l'année dernière ou de l'année d'avant, il n'amène pas de grosses révolutions. Il y a la prise Thunderbolt qui est intéressante pour les vidéastes, mais bon, je ne l'ai pas encore eu en main. Donc peut-être que cochon qui s'en dédie, je vous dirais je veux celui-là absolument, il m'a changé ma vie, mais vu sur le papier, non, je ne pense pas.
Et je pense que c'est surtout une mise à jour gratuite qui va ajouter beaucoup de choses à tout le monde.
Ouais.
C'est iOS 15. Hein. Je pense que moi j'attends beaucoup iOS 15 parce que chaque année, ils ajoutent beaucoup de choses à l'iPad.
Même avant, avec la 14.5, l'arrivée de Scribble en français qu'on attendait depuis un an, Bon, on ne va pas détailler, mais en gros, c'est la reconnaissance avec le stylet automatique de ton écriture manuscrite pour la transformer tout de suite en écriture éditable. Donc, tu vas même pouvoir, dans une fenêtre de recherche, écrire avec ton stylet. Ça, c'est quelque chose qui était très attendu dans l'utilisation des iPads. Mmh. Ouais, et qui va plus vous changer la vie, à mon avis, qu'un écran mini LED. Mais c'est un avis personnel. Il est à peu près dans les mêmes prix. Je crois qu'il y a une légère augmentation, mais je ne me souviens plus des prix de l'année dernière. Vous pourrez l'avoir à partir de 799 €, cet iPad Pro. On boucle un peu. On a passé déjà une heure quand même sur... C'est vrai que c'est des keynotes, enfin des events qui sont très denses. Ouais. Le fait que ça ne se passe pas en public... font qu'ils arrivent avec des cuts et de la vidéo cutée et montée, Apple a nous refourgué un nombre d'infos qui donne un petit peu le vertige quand même hein, par rapport à des keynotes en public. Vous avez cette impression-là aussi que Apple, ils packent quand même pas mal de choses maintenant dans leur event.
Marion a le micro muté, donc je me permets de répondre. Ouais, bah, surtout quand tu la débriefes juste après...
Chaud.
C'est une heure, mais c'est une heure, il n'y a pas une minute de perdu. Hein. Clairement, c'est... peut-être même, je ferais presque la critique de dire que c'est peut-être un peu trop dense. Mmh. J'ai le retour de certains amis qui, on en avait discuté un peu après, ouais, qui me disaient, putain, ça allait à une vitesse, genre tu vas faire une pause pipi, tu rates des trucs importants, quoi.
Tout à fait. Marion,
C'est plutôt le signe de, justement d'une conférence rondement menée. Je veux dire, si tu es capable de prendre une pause pipi, c'est que tu n'es pas très intéressé par ce qui est annoncé, quoi.
C'est une façon de voir les choses. Oui, pourquoi pas. Non, en vrai, pourquoi pas.
Ouais, c'est un format d'une heure vraiment bien, vraiment idéal. Et ils ont une maîtrise vraiment des présentations, du rythme. Assez impressionnante.
Ça, oui, ils sont forts là-dessus. On est désolé pour les gens qui détestent Apple et pour qui on a. Mais je pense qu'ils ont déjà décroché de l'émission. Mais Apple a clairement 2 ou 3 longueurs d'avance sur tous les autres fabricants tech en termes de présentation et d'event. Ils gardent une avance qu'ils avaient déjà hein, sous l'ère Steve Jobs. Ils ont un savoir-faire qui est complètement dingue et ils y mettent des moyens incroyables. Hein. Les events sont des... Comme tu dis, Marion, on n'a pas le temps d'aller faire pipi, quoi. On s'emmerde pas une seconde. Et c'est plutôt intéressant. Après, pour nous, c'est dur à chroniquer derrière parce que pour prendre des notes, il faut aller vite. Mais heureusement, on a l'iPad pour ça. On va conclure là-dessus. Je voulais quand même revenir sur une autre chose Apple annoncée un peu plus en catimini, mais qui pour moi va beaucoup plus changer les choses que tout ce qui a été présenté dans l'event, c'est l'arrivée de la 14.5. On ne va pas faire toutes les nouveautés de la 14.5 et je vais vous poser une question très simple. Ils activent et elle devient obligatoire la fameuse fonctionnalité App Tracking Transparency. Est-ce que pour vous, et on va commencer par Marion, est-ce que pour vous, c'est la fin de l'Internet gratuit? Vous pouvez expliquer ce que c'est que l'App Tracking Transparency dans votre exposé, mais Marion, est-ce que c'est la fin d'Internet gratuit, ce pavé dans la mare que Apple jette dans le marché publicitaire?
Bah, vas-y, explique, Jérôme, ce que c'est, justement. C'est toi l'introduit du sujet.
L'App Tracking Transparency, pour la faire simple, c'est le fait que jusqu'ici, avec Facebook et tous les systèmes, vous aviez un identifiant publicitaire. Et cet identifiant publicitaire vous suivait à la trace de site en site, d'activité Internet en activité Internet. Et le fait même qu'il puisse non seulement collecter des données sur ce que vous faisiez à un endroit précis, mais qu'il puisse les exporter au prochain endroit que vous alliez, sans votre consentement explicite, faisait qu'on arrivait à faire un profiling, un identifiant publicitaire de vos comportements qui était anonyme. Hein. Ce n'était pas non plus un tracking « Jérôme est en train de faire ça », mais c'est plutôt « Utilisateur 1224 est en train de faire ça ». Il habite à tel endroit, il doit avoir à peu près ça comme âge, et donc d'extrapoler ensuite des profils publicitaires très ciblés, qui donnaient cette impression parfois d'être écoutés sur Internet, tellement les recommandations publicitaires sont parfois, alors parfois complètement, se plantent complètement, mais parfois tu te dis, mais mince, comment ils savent que ma préoccupation d'achat en ce moment, c'est ça, quoi.
Ouais, et je précise d'ailleurs d'activité en activité et surtout d'application en application.
D'application en application. Et c'est ça que Apple, avec cette App Tracking Transparency, jette un pavé dans la mare, c'est qu'ils ne vont pas interdire ce tracking d'application en application. Par contre, à chaque étape, ils vont vous demander votre consentement. Et c'est peut-être le fond du problème, c'est qu'on sait que la plupart des gens ne vont pas donner leur consentement et donc vont ne pas vouloir être traqués d'application en application, ne veulent pas que leur activité Internet soit utilisée à des fins publicitaires. Et ça casse complètement tout le système publicitaire qui était mis en place jusqu'ici dans Internet, du fameux faux gratuit, c'est-à-dire on vous offre plein de services, plein d'informations, plein de contenus, à vous les utilisateurs. En contrepartie, on utilise un système publicitaire extrêmement performant, extrêmement ciblé, qu'on peut vendre très cher aux annonceurs, qui permet de financer tout cet Internet gratuit. Apple, en redonnant le droit aux utilisateurs de dire « non, je ne veux pas », est-ce qu'il ne va pas casser l'Internet gratuit? Est-ce que, Marion, est-ce que tu as un avis là-dessus?
C'est un sujet un peu compliqué. Évidemment que ça va... On suppose que ça va grandement impacter les revenus générés par la publicité. Ça va évidemment grandement impacter les régies publicitaires, type Facebook, Amazon, Google. C'est pas pour rien que Facebook se plaint. Mais je pense qu'on le voit tous, on voit peut-être l'impact aussi qu'a eu ces petites pop-up de localisation que font les applications quand elles voulaient géolocalisent. Maintenant, de temps en temps, elles vous demandent, est-ce que vous souhaitez continuer à ce que votre géolocalisation soit traquée par cette application tout le temps, uniquement lorsque l'app est ouverte ou jamais. Et donc là aussi, vous pouvez choisir. Donc je serais curieuse, Jérôme et Guillaume, quel est le choix que vous avez tendance à choisir? Est-ce que vous faites tout le temps? Est-ce que vous choisissez uniquement lorsque l'app est active? Ou est-ce que vous refusez la géolocalisation maintenant que vous avez cette petite pop-up qui arrive de temps en temps?
En fait, en général, j'active jamais, je ne laisse jamais en arrière-plan. D'ailleurs, sur mon iPhone, j'ai tous les trucs de localisation désactivés, même le Find My iPhone. Hein. C'est pour dire que vraiment, je fais super attention à ça.
Tu n'aideras pas les gens à retrouver leurs clés. Hein. Merci.
Tant pis. Non, mais tant pis. Mais non, je ne veux vraiment pas. Et concernant les applications en elles-mêmes, soit j'active une fois, mais sinon, ce que je fais et ce que j'aime beaucoup sur iPhone et qu'on ne retrouve malheureusement pas sur Android, enfin, ça va arriver sur Android 12, c'est le fait de pouvoir dire « localise-moi uniquement avec mon IP, pas avec ma localisation GPS ». Donc, ça permet d'avoir une localisation approximative. C'est notamment très pratique sur des applis météo qui ne sont peut-être pas forcément très respectueuses de la vie privée où je ne suis pas obligé de donner mon adresse exacte, mais je peux leur dire « bon, bah, je suis à Toulouse, tu as cette info ». Ça ne m'arrange pas trop, mais au moins, tu n'as pas mon truc précis. Et pour en revenir à ce que tu dis, enfin, au business model et tout ça, moi, je suis prêt à prendre un pari que je fais aujourd'hui dans le rendez-vous tech, hein, incroyable. Je pense qu'on est au début d'un changement complet du financement du net et mon pari est que Facebook et Google, notamment ces deux-là, vont avoir leur business model principal qui, d'ici 10 ans, va complètement changer. C'est-à-dire que le business model de collecter, d'agréger un maximum de données de façon éhontée sur n'importe quel utilisateur, enfin sur tous les utilisateurs, je pense que les lois vont vraiment se durcir sur ces questions-là. Mais et je pense que d'ici 10 ans, ça va changer.
Tu dis le business model va changer, mais en gros, les utilisateurs, les consommateurs d'Internet vont devoir payer?
Soit il y aura quelque chose comme ça, soit, alors c'est toujours très difficile d'anticiper le futur, hein, parce que souvent on se gourre, soyons honnêtes. Non, ben oui. Et ceux qui ont raison, c'est qu'ils ont eu un petit peu de chance. Mais c'est très difficile, tu vois, d'estimer comment ça va évoluer. Je pense effectivement, moi j'envisage des choses du genre, pour les Français, qu'il y ait des solutions comme des passes numériques, des choses comme ça, où tu aies un certain budget, alors pour les revenus les plus modestes, qui soient aidés par l'État ou des choses comme ça, mais que tu aies des aides. On a déjà des aides à la culture, hein, on a déjà des choses comme ça qui existent. Mais que tu aies la même chose pour Internet, que tu puisses par exemple payer 1 euro par-ci, 1 euro par-là pour t'abonner par exemple à Marmiton, parce que Marmiton aujourd'hui te force soit à payer, soit à donner vraiment toutes tes infos privées. Donc moi, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça d'ici 5 à 10 ans. Et que Facebook, là honnêtement, je pense que Facebook flippe, et ça se voit la façon dont Mark Zuckerberg réagit. Il est vindicatif. Il est vraiment pas très cool là en ce moment.
Non, bah, là, on attaque quand même le cœur de leur business. Tu parlais justement de Webedia avec Marmiton. Le choix est encore plus drastique. C'est ça t'enlève pas la pub si tu payes. Ça t'enlève juste le tracking en fait. Donc
il n'y a aucune valeur pour l'utilisateur, c'est ça qui est génial. Tu payes pour n'avoir strictement rien pour toi.
Bah, si, t'es pas traqué.
En fait, tu n'as pas ta vie privée.
C'est pas une valeur, c'est un droit que tu peux avoir. C'est la différence entre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur immédiate que tu récupères, que le service te donne, c'est un droit utilisateur.
Bah, apparemment, la CNIL.
Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour que mes droits soient respectés.
La CNIL apparemment a autorisé justement le fonctionnement aujourd'hui de Marmiton, jeuxvideo.com, qui sont tous sous l'enseigne de Webedia. Ce fonctionnement-là est apparemment OK par rapport à la loi. Donc,
pour moi, c'est un vrai problème. Tu aurais dit d'un autre côté, j'enlève la pub tu payes versus j'enlève la pub. Tu as une valeur pour l'utilisateur de pourquoi je paye. Mais je te donne de la pub, mais on ne te traque pas. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, moi, je trouve.
Mais bon, je suis d'accord, mais je me mets à la place du site web. Je pense qu'ils se sont dit, il faut quand même qu'on ait un moyen de financement. Et au pire, ce qu'ils se disent, c'est quelqu'un qui veut ni l'un ni l'autre, on lui ferme les portes et ce n'est plus l'Internet gratuit qu'on connaît.
C'est, ouais. C'est le business model. Je ne vois pas ce qui est, à part techniquement où c'est compliqué, où il faut prévoir de switch on, switch off l'affichage des publicités. Mais ils auraient pu le faire correctement. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un site internet qui dit soit tu payes et tu n'as pas de publicité et tu n'es pas traqué, soit tu ne payes pas et dans ce cas, tu as des publicités et tu es traqué. Fine. Là, il y a une valeur pour l'utilisateur. Mais tu es traqué, tu ne payes pas ou tu n'es pas traqué, mais tu as des publicités et tu... etc. Enfin, c'est...
Ouais, oui.
T'inquiète, je suis encore mêlé par cela.
Mais non, ouais,
je trouve pas ça juste, en fait.
Là où je rejoins Marion, c'est que le truc est juste punitif, il n'est pas incitatif et on n'arrivera à rien comme ça.
C'est un peu double peine. Tu dois payer pour exercer ton droit.
Oui,
c'est
oui.
Ça, moi, qui me gêne.
Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je suis assez d'accord avec Guillaume. Il y a un changement profond d'Internet et Apple a allumé une mèche qui risque de lui péter à la gueule aussi. Hein, parce que Apple, s'il n'y a plus que du contenu payant, est-ce que les gens vont utiliser autant? Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et je pense qu'on retiendra peut-être cette date dans 10 ans. Parce qu'on va avoir un Internet, là je te rejoins Guillaume, qui va être très différent. Et peut-être que ça sera un Internet il y aura l'Internet des riches, l'Internet des pauvres, qui est déjà le cas, hein, soyons honnêtes, mais qui sera encore plus entériné. Et c'est un peu triste. Là aussi, on quitte les années babacool hippie d'Internet pour des choses comme ça. Ça aurait mérité qu'on en fasse un autre sujet. Je voulais qu'on parle de l'espace. On ne va pas avoir beaucoup le temps. Mais je vais vous demander quand même, parce que on a eu le vol là, de Thomas Pesquet, la mission Alpha. On a vu aussi le vol d'un drone sur Mars. Est-ce que c'est le grand retour de l'aventure spatiale? Ou est-ce que ça nous fait ni chaud ni froid maintenant? Est-ce que c'est excitant ce qui se passe, le retour sur la Lune? On commence à parler quand même plus sérieusement de Mars. On se prépare justement en allant sur la Lune et en étant de manière plus permanente. Est-ce que ça continue à vous intéresser? Est-ce que vous avez regardé le vol de la mission Alpha, Guillaume?
Je suis désolé, je veux pas être rabat-joie.
Mais tu vas l'être.
Je risque de l'être un peu. Non, je comprends pourquoi on se passionne pour l'espace. Je comprends totalement que ça, c'est merveilleux. Honnêtement, c'est merveilleux. Le truc, c'est que moi, ça a jamais fait partie des sujets qui m'ont plus fait vibrer que ça. Je me rappelle d'un pote au lycée qui adorait ça. Il montrait son télescope. Il était là, mais c'est incroyable. Et moi, j'étais là, non, mais en fait, j'ai juste envie de faire des lignes de code, tu vois, parce que moi, je trouve ça cool.
Donc, t'es non, vraiment un nerd.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que je suis terre à terre, finalement? Non, mais voilà, le spatial...
L'espace te fait pas rêver, toi?
Non, je trouve ça cool. J'aime bien, il y a un petit côté cocorico avec Thomas Pesquet que j'aime bien. C'est quelqu'un qui, en plus, est un bon client quand il passe en interview. Je trouve qu'il est très chouette. Je trouve qu'il a, voilà, il a le côté petit smile qui passe bien et c'est très cool. Mais bon... Ouais, je suis déjà tellement, j'ai tellement de trucs à faire sur Terre et plein de passions, des trucs, de choses différentes que non, que je regarde, mais je regarde quand même d'un petit coin de l'œil, tu vois. Je suis pas non plus, je suis pas en mode c'est nul, ça sert à rien, gna, gna, gna. Non, je regarde d'un œil intéressé, mais je suis pas un fan.
Marion?
Voilà.
Je pense que c'est un petit peu un challenge en 2021 de renouer l'intérêt avec l'espace dans la mesure où il y a quand même beaucoup moins de bons aussi importants qu'il y a pu le faire lors du début de la conquête spatiale. Et donc, du coup, c'est comme on le voit quand l'innovation ralentit du côté d'Apple. Désolé pour le parallèle un peu basique, mais pour les fans de tech, ça aidera peut-être à comprendre mon point de vue. C'est qu'au tout début d'Apple, on s'excitait à la moindre sortie d'iPhone parce que le changement entre un iPhone et l'autre était drastique et très très important. Mais au fur et à mesure, et aujourd'hui en 2021, bon bah chouette, il y a un nouvel iPhone, il est meilleur que le précédent, mais bon, ça va pas changer ta vie quoi. Tu vas pas forcément le renouveler chaque an, tu vas le renouveler une fois tous les 3 ans, 4 ans ou 5 ans à voir quoi. Et en fait, avec la conquête spatiale, voilà, on n'est pas devant des avancées scientifiques ou de conquête spatiale drastiques, même s'il y a Mars qui se profile, on n'y est pas encore. Je pense que je m'émerveillerai quand on y sera, mais on n'y est pas. Bon, bah là, il a rejoint la station internationale, c'est génial. Certes, il l'a fait avec une des fusées de SpaceX. Très bien, ça c'est intéressant, mais je ne suis pas passionnée par l'espace non plus. Je pense que je suis plus effrayée par l'espace, par ce vide noir. Je pense que quand on en sera dans la conquête des planètes, l'exploration des planètes, si on rencontre des civilisations, tu vois, la Star Trek, là je serais intéressée. Mais
Tu
là,
seras plus
attends, on
là.
sera là avec.
Marion, il lui faut la téléportation, en fait.
Non, mais c'est même pas la téléportation, c'est les autres civilisations qui m'intéressent. C'est pas la technologie,
Ouais,
le
bah
moyen de le faire qui.
attends
C'est la
qu'elle te pointe
culture.
avec leur pistolet laser, tu vas voir les autres civilisations si, hein, on ne sait
Eh
pas.
ben oui, mais bon, voilà. Donc, tant qu'on n'est pas à Star Trek et à rencontrer d'autres peuples, c'est pas ma passion.
On sent qu'il y a le confinement hein, qui est passé par là, parce que Marion a envie de rencontrer
Plein de monde!
plein de gens.
Venez,
Je suis en manque de contact
Tout le
social.
monde, je crois, Marion, tout le monde.
Et ben, moi, le petit garçon qui est en moi, moi, a été ému. Et je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que de voir des fusées qui réatterrissent après avoir lancé des
D'accord.
mecs dans l'espace, de voir qu'ils sont en train de préparer le projet Artemis où on va avoir une base permanente sur la Lune. Moi, ce qui me rendait triste, c'est qu'on ait abandonné la Lune, on y était allé, puis oh, ça sert à rien, plus personne n'y allait. Je trouve que là, l'aventure spatiale est relancée et surtout elle devient concrète. Alors, je comprends ce que tu veux dire, Marion, sur les iPhones, mais pour moi, c'est presque un signe encourageant. À partir du moment où les vols spatiaux vont devenir un peu banals, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. Le côté spectaculaire d'un vol réussi, parce que, avouons-le, dans les années 60, quand ils balançaient une fusée, ça avait une chance sur quatre de péter. Donc, le stress d'un décollage, il était là. Ça va péter ou ça va pas péter. Là, on commence à arriver à un niveau de fiabilité, de maîtrise, d'envoyer des hommes dans l'espace, qui va ouvrir le tourisme spatial, mais au-delà de
Mais
ça.
tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je vais pas forcément m'émouvoir du nouveau lancement sur la station internationale qui ressemble à une nouvelle itération d'iPhone. Mais par contre, c'est sûr que si ils arrivent à implanter une base permanente sur la Lune ou qu'à un moment donné, ils vont sur Mars, etc., bah pour moi, ce sera tu vois, le next step, genre l'AirTag ou les AirPods, tu vois, une nouvelle étape. Pour la conquête spatiale, quoi. Voilà. Là, jusque pour l'instant, on est sur de l'itération. Voilà.
J'imagine bien les gens qui n'aiment pas Apple et qui nous entendent comparer l'espace à Apple et qui sont là, mais putain,
Mais putain, ça n'a rien à voir!
mais pourquoi ils nous parlent d'Apple tout le temps?
D'ailleurs, et on va boucler là-dessus, comme ça sera parfait. On a constaté qu'il y avait pas mal d'Apple dans l'espace, ils font même des photos avec un iPad.
Oui, j'ai vu.
Deux ou trois du personnel spatial là-haut a des Apple Watch. Après, on ne sait pas s'ils utilisent des iPhones pour.
Je me suis posé la question si le fait d'utiliser un iPad n'était pas lié au fait qu'il n'y ait pas de gravité, parce que peut-être que c'est, tu vois, un téléphone qui se balade et tout, ça
mais
peut...
Attends, tu sais que moi, je me pose plein de questions plutôt par rapport à l'Apple Watch. Comment fonctionne un accéléromètre dans zéro gravité? Est-ce que l'écran s'allume quand tu tournes ton poignet, quand tu es à zéro gravité? Tu vois, normalement, non. Donc, il va falloir sortir des séries spatiales de vos produits.
Ou la boussole aussi, tout simplement, parce que normalement, c'est le champ... C'est le champ magnétique terrestre.
Le partenariat boutique avec la NASA et l'Apple Watch édition limitée NASA.
Ouais, mais en tout cas, quand même, on boucle là-dessus. Moi, je me souviens, années 80, 90, la montre qu'utilisaient les astronautes ou les cosmonautes, c'était le prestige absolu d'avoir une montre qu'utilisaient les missions spatiales. Aujourd'hui, c'est une Apple Watch qui monte dans l'espace. Donc, c'est une détente. Tu me détends peut-être.
C'est vrai.
À voir. On boucle sur les gros dossiers. On va juste prendre, parce qu'on a peu de temps, mais je voulais quand même faire 2-3 news et rumeurs avec vous. On va les faire un peu façon laser. Je vais vous demander, poser la question, vous répondez assez rapidement. Vinted, Airbnb, tous ces trucs où on peut gagner de l'argent en tant que particulier. Marion et Guillaume, est-ce que vous avez déclaré vos ventes Vinted et votre Airbnb aux impôts?
J'utilise pas ce genre de service pour me faire des revenus. Donc
t'as jamais vendu un truc sur Le Bon Coin ou quoi que ce soit?
Pas depuis que c'est rentré en vigueur.
je suis pas un agent du fisc. Hein. Vous avez
ce que vous voulez. Hein.
De mon côté, j'ai pas vendu grand-chose. Je pense qu'en tout, je ne sais pas du tout combien il y aurait en tout et pour tout, mais je pense qu'on est sur des sommes qui sont entre 500 ou 1000 euros. Il me semble quand même qu'il y a une certaine tolérance, c'est-à-dire oui, que tant que tu fais ça dans le cadre entre particuliers, enfin, tu vois, tout ce que j'ai revendu, c'est des petits produits, des choses comme ça, des meubles ou je ne sais plus trop quoi, parce que ça remonte. Bon, voilà, de ce que j'ai entendu, il y a une certaine tolérance. Bien sûr que si tu en fais un business...
En fait, il y a une tolérance, les plateformes en ligne ont l'obligation de vous déclarer, parce que c'est ça la nouveauté, c'est Vinted, c'est Airbnb qui va déclarer au fisc que vous avez vendu, vous avez gagné de l'argent en fait avec leur service. Donc c'est même pas, on n'est plus dans je déclare, je déclare pas, c'est les plateformes qui vont déclarer pour vous. Donc vous n'aurez pas le choix. Mais si vos ventes excèdent 3000 euros sur l'année ou si vous avez réalisé plus de 20 transactions sur la même période.
Oui, c'est ça.
Je trouve ça fair. Je trouve ça, pour l'anglicisme, je trouve ça équitable. Je trouve ça laisse quand même les gens faire un vide-grenier cool et se faire un peu d'argent en revendant de l'occasion. Mais ça évite à des gens de créer des véritables business non concurrentiels par rapport à de la vraie vente, quoi.
Carrément. Et en plus, on est en France assez critique en général sur l'administration, sur tout ça. On dit que c'est de la merde, on dit que machin. S'il y a bien un truc où moi, j'ai été à 3 reprises récemment agréablement surpris, et sur le net, c'est aussi un peu l'avis de pas mal de gens. Quand tu appelles les impôts, en général, c'est des gens assez compétents au bout du fil. Donc, tu leur demandes si tu as généré tant de chiffres d'affaires, de trucs comme ça. Est-ce que je dois déclarer oui, non? Ils ont la réponse. Hein. Et ça, j'avoue que j'ai été assez impressionné.
Ouais, ouais.
Ils sont méga compétents. Donc,
tu crois qu'il y a que Google qui te traque?
Exactement. Non, mais alors là, s'il y a bien un endroit où l'État français est, c'est sur Le Bon Coin, sur Vinted. Alors là, vous y échapperez pas. Clairement, je pense qu'ils surveillent à fond Le Bon Coin.
Tout à fait. Rapidement, Spotify augmente le prix de ses abonnements.
pas pour l'abonnement solo. Donc moi je suis pas concernée, je m'en fous.
Donc démerdez-vous hein, les gens.
Il y a les abonnements duo et famille. Voilà.
Moi, je pense qu'ils font ça parce qu'il y a plein de gens qui prennent ensemble des choses, donc ils
ouais,
essayent
mais,
de se...
Tu vois, c'est vrai que Marion et moi, on n'a pas le... Toi, tu utilises Spotify, moi, j'utilise YouTube Music, ouais.
Ouais, c'est dommage, ouais, vous pourriez le prendre à deux.
Bah ouais, mais moi, j'aime bien YouTube Music parce que ça me permet de pas avoir de pub sur YouTube, et ça, Marion, elle s'en fout.
Je m'en fous, puis alors, l'idée de transférer toutes mes playlists sur autre chose que Spotify, rien que ça, ça me...
Bah, surtout... Mais le problème, c'est que là, tu as YouTube Music, mais dans 2 ans, ça va changer, ça va passer à Play Google
Play
Music.
Google,
dans 2 ans,
machin, oui,
dans 2 ans, ça va être YouPlay Google.
Après, ça sera Google Music, qui revient.
Ouais.
Excusez-moi, c'est un petit tacle, mais
non,
bon,
mais t'as raison, t'as raison.
Non, mais ils ont tellement changé d'appli tout le temps, quel enfer.
Ouais, moi ça me va, mais bon, j'ai pas une consommation de musique folle. Netflix confirme son intention d'arrêter les partages de comptes. Scandale ou pas scandale?
Bah, côté perso, te donne envie de dire ah, c'est nul. Mais en vrai, tu te mets à la place de Netflix, tu fais bon.
Ouais, mais est-ce qu'il tire pas une balle dans le pied?
Non, mais ça a toujours été une pratique hein, dans ce genre de business model. Il y a toujours un peu le jeu du chat et de la souris où tu essaies d'empêcher que les gens partagent les identifiants et compagnie. Hein.
Ouais, je pense que Netflix est quand même une plateforme très très chouette et je pense que les gens, quitte à même y mettre quelques euros de plus, resteront sur la plateforme.
Bah, de toute façon, Netflix a toujours une tolérance pour le partage des comptes parce que ça leur a permis comme ça de conquérir un public. C'est un peu, voilà, les gens sont un peu dégoûtés maintenant parce qu'ils disent, bah, maintenant que vous nous avez, maintenant qu'on est drogué à Netflix, vous nous dites qu'il va falloir chacun qu'on paye, c'est un peu les boules, quoi. Donc je comprends aussi la réaction.
C'est l'évolution du paysage de la compétition aussi. Hein. Ouais. Quand ils devaient se faire un nom, le but c'était la croissance et de se faire connaître. Bah, maintenant qu'ils sont connus, ils n'ont plus à faire ça. Hein.
Ne prenez jamais la première dose du dealer. Jamais,
ne faites pas confiance.
Ne faites pas confiance.
Et on termine, quelle belle fin.
On termine avec une dernière news. On va terminer là-dessus. Discord qui dit non à Microsoft pour 12 milliards de dollars. Est-ce qu'on retiendra ça comme... Il y a eu quelques erreurs comme ça dans l'histoire. Yahoo qui avait refusé aussi des milliards de dollars et qui maintenant valent quasiment plus rien. Est-ce que Discord a raison de faire cavalier seul ou est-ce qu'ils vont s'en mordre les doigts? Petit avis là-dessus. Après, vous pouvez ne pas en avoir. Hein.
Moi, j'avais suivi l'histoire. Ce qui est assez rigolo, c'est que Discord ne veut pas monétiser la vie privée de ses utilisateurs.
Ouais, mais comment,
c'est d'ailleurs...
Ouais. Comment ils vont faire d'argent?
Mais c'est une très bonne question. Bah, ils ont des forfaits premium, enfin, ouais, ce qu'ils appellent micro et tout.
Ça, on sait que tu fais pas un business model là-dessus. Hein.
Bah ouais. Donc, je suis très curieux de voir comment Discord va évoluer. Mais en tout cas, leur refus, la rumeur qui court, c'est que leur refus serait lié, en fait, de ne pas vouloir monétiser la vie des utilisateurs. Extrêmement curieux de voir comment Discord va évoluer parce que... Bah parce que c'est une appli qui est partout maintenant.
Ça me rappelle un peu Snapchat hein, qui disait on va pas mettre de pub parce que la pub c'est pas cool et qui finalement au bout d'un moment.
Ah oui, non, mais je n'y crois pas trop. Ouais. Moi, je ne suis pas naïf. Hein, mais je ne sais pas, toi Marion, tu n'utilises pas des masses Discord, non?
Non.
Donc tu es peut-être moins concerné.
Quand j'enregistre le rendez-vous tech.
Voilà, c'est là où tu as mis Discord.
Voilà. Et bon, non,
si,
bah, moi,
quand on joue, Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Mais quand on joue, on utilise Discord comme pour...
Parce qu'on a décidé d'utiliser Discord, mais bon, j'y vais pas de moi-même, quoi. C'est, si on m'oblige à y aller, j'y vais.
Ouais, toi, t'es très slack dans ton entreprise, par contre, non?
Ah bah, en fait, c'est juste ça. J'ai été conditionnée par mon environnement de travail où depuis que je suis chez Dailymotion et Alan, on a toujours utilisé Slack. Donc oui, c'est clairement ça... de manière favorite, mais pas que chez Alan d'ailleurs, hein. On l'utilise pour The Design Crew, j'utilise pour des groupes de personnes, par exemple j'ai un Slack dédié aux product designers en France, j'ai un Slack qui est dédié à la user research, donc en fait toutes mes communautés, moi elles sont sur Slack.
Ouais, bah, c'est ça en fait, tu vas là où sont tes gens en fait, et nous c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités sur Discord, même professionnelles. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir que Discord, pour certaines entreprises, est de plus en plus utilisé. Nous, Slack, ça a pas... Enfin, moi, j'ai jamais aimé Slack. Et c'est vrai que c'est un côté très business, en fait, Slack, et une interface que j'ai jamais trop aimée, moi.
Je suis pas très fan, mais je pense que ça s'adresse à des publics complètement différents. Hein.
Ouais.
Tout simplement.
Bon, eh ben, l'histoire nous le dira. Est-ce que Discord a fait la pire erreur de sa vie ou pas? Est-ce que Patrick...
Mais c'est intéressant, hein, cette question sur le business model. Pour moi aussi, c'est pas très clair. Hein.
Oui.
Donc, ça va être, à mon avis, leur enjeu pour continuer à croître et à fonctionner. Quoi.
Ouais, tout à fait. En tout cas, on verra effectivement s'ils ont eu raison ou tort. On verra aussi si Patrick a eu raison ou tort de nous confier les rênes de l'émission pendant son absence. À vous de nous le dire. On espère bah, que vous avez bien aimé écouter cette émission. C'est sûr que c'est pas du Patrick, hein, c'est... mais bon, c'est un peu comme la viande végétale. C'est une expérience à tenter, même si c'est pas exactement comme
de
la viande.
Je suis pas sûr que la comparaison soit flatteuse.
Donc, nous sommes devenus de la viande végétale. Très
nous
bien.
Sommes les Beyond présentateurs des ersatz.
Ça me dérange pas. Hein.
Voilà, des ersatz sur le Patrick. Bah, écoute, nous, on a testé Beyond Meat, on a été les nouveaux fermiers, on a été agréablement surpris quand même avec Marion.
Ah oui, moi je kiffe bien. C'est l'instant bobo.
C'était l'instant bobo, tout à fait. Marion, Guillaume, où est-ce qu'on peut vous retrouver? La question est perfide.
Ouais, mais c'est marrant parce que la question a changé maintenant. la réponse change. Parce que je t'aurais répondu sur ma chaîne YouTube, mais plus maintenant.
Plus maintenant.
Et oui. Eh bien, sur Nowtech, évidemment. Hein, Nowtech, que ça soit sur Twitch, twitch.tv/NowtechQG, ou sur YouTube, ben voilà, Nowtech. J'ai rejoint l'équipe et j'en suis très fier et très heureux.
Marion, quel jour on peut te retrouver dans le mug dans la matinale?
Les mercredis, voilà, pour la matinale de 8h à 9h, où on débriefe de l'actu tech.
Est-ce que tu sais de quelle série tu vas parler dans le prochain? J'essaie d'avoir.
Oh là là, comment il veut faire
Spoil pour Patrick.
Spoil. Bon, bah, a priori, parce qu'on m'a poussé à en parler, je vais parler de Shadow and Bones.
Ah ah. Mm-hmm. Voilà. Tu l'as vu, Guillaume,
Nouvelle
Shadow
série
and Bones?
Non, moi je suis sur Cobra Kai en ce moment et je kiffe énormément.
Mais moi aussi, j'ai kiffé à mort. Ah
bon, bah, dis rien, mais en fait, je suis en gros kiff dessus.
Ah là, c'est pareil, c'est le gamin ah ouais. Jérôme, mais qui kiffe à mort. C'est
un Karate Kid, là, le retour, quoi. Quel plaisir.
À fond. Bon, eh ben, écoutez, toute l'équipe du mug, moi j'étais très content. On devrait de temps en temps faire des mugs tous les trois.
Mais cet été, on a envie de penser.
Sympa en tout cas.
C'était très sympa de faire ça avec vous. Et merci en tout cas de nous avoir écoutés. Je sais pas comment, quand Patrick y remercie.
T'as dit merci de nous avoir égouttés.
Non, oui. Écoutés.
C'est parce qu'à force de nous écouter, les gens suent, donc je ne sais pas.
Non, à force d'écouter nos salades, ils nous égouttent. J'ai pas de consigne particulière pour remercier les producteurs, les Patreons, mais on remercie tous ceux qui soutiennent les créateurs de contenu, que ce soit chez Patrick, tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à soutenir un contenu un petit peu alternatif, pas complètement pro, qui appartient pas à des grands groupes médias. J'en profite pour vous remercier tous, parce que on a besoin de vous pour exister, pour pas être écrasé sous du contenu, on va dire, financé par des moyens plus traditionnels. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.